Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France. Par ici, les économies, notre objectif chaque semaine, vous le connaissez, c'est de vous redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va faire pousser nos fruits et légumes, que l'on ait un jardin ou pas d'ailleurs, et on va vous dire comment faire avec notre invitée. Bonjour Caroline Minoz.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste jardin, créatrice de contenu. Je vous propose pour commencer de répondre à une première question d'une auditrice.
Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès, voilà, et cette année, j'aimerais bien faire pousser des fruits et des légumes, mais entre ma vie de famille, mon travail, j'ai peur de pas avoir assez de temps, donc si vous avez des conseils, je suis preneuse.
Merci beaucoup Marie-Agnès. Alors des conseils, on va vous en donner pendant toute l'émission, mais peut-être cette première question déjà Caroline, est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour faire pousser ces fruits et ces légumes? Ça demande quand même de l'investissement?
Alors non, c'est pas vraiment un investissement. En fait, on estime à 10 minutes par jour l'occupation du jardin. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça comprend? Ça va faire enlever les feuilles mortes, couper quelques branches un peu esquintées, arroser, mettre du paillage s'il fait froid ou s'il fait très chaud. Mais franchement, c'est 10 minutes par jour. Et c'est 10 minutes de bonheur.
Ah oui, j'ai l'impression, vous le dites avec le sourire. Pourtant, en 10 minutes, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que vous venez de dire, mais on va bien vérifier tout ça, justement, pendant l'émission, et on va en profiter pour faire le point aussi sur les fruits et légumes les plus rentables à faire pousser, ceux qui ne demandent pas trop d'entretien. On va voir aussi comment faire un potager en appartement, dans un studio même, pourquoi pas. Mais on va commencer, Caroline, avec la base. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je parle sur le plan financier, hein, de faire pousser ces fruits et légumes.
Oui, c'est extrêmement rentable. Alors, pour le coup, surtout quand on voit le prix des légumes sur le marché, ça augmente chaque année. On est tributaire du temps. S'il fait très chaud, s'il y a des orages ou quoi que ce soit, les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à nous fournir des fruits et légumes chaque année en grande quantité. Donc les faire pousser soi-même, effectivement, c'est un avantage parce qu'on va maîtriser l'arrosage, on va maîtriser sa culture et par exemple la tomate, qui est le fruit par excellence que tout le monde adore, lui, il est extrêmement rentable. Un pied de tomate, par exemple, en pleine terre peut vous produire 4 kilos de tomates. C'est énorme.
Ouais,
donc quand on voit le prix des tomates, surtout les tomates cerises que tout le monde adore, je peux vous dire, autant les faire pousser soi-même.
C'est vrai que c'est très bon les tomates cerises, vivement la saison. Combien d'économies on peut aspirer? Il y a des chiffres. Moi j'avais entendu parler de 1 500 € sur un beau potager, sur l'année, je ne sais pas.
Oui, c'est vraiment le tarif qui ressort régulièrement. Ouais. Après, si vous avez aussi des aromates, un petit appartement, vous voulez faire pousser des aromates, allez sur le marché, demandez simplement une petite botte de ciboulette et vous verrez le prix. Non, c'est vraiment très rentable et on peut faire de bonnes économies.
Par contre, Caroline, il y a un investissement de départ quand même. Ça demande de mettre un petit peu d'argent pour en économiser ensuite?
Pas forcément. Vous pouvez vraiment jouer sur la récup. Par exemple, si vous voulez faire votre potager, alors ce qui se fait beaucoup, c'est les potagers surélevés. Vous récupérez des planches saines, hein, bien sûr, qui n'ont pas été peintes ou quoi que ce soit. Et vous pouvez faire vous-même votre propre potager. La récup, ça marche très très bien.
Bon, ça c'est un bon point encore. Et il paraît que ça devient aussi une activité intergénérationnelle. Tout le monde se met à faire pousser ses fruits et légumes. Enfin, tout le monde, j'exagère un peu, mais en tout cas, toutes les générations.
C'est vrai. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui avait un potager, qui était un potager nourricier. Ensuite, son jardin est devenu un jardin d'ornement. Et aujourd'hui, ça redevient un potager nourricier. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, pour des raisons, notre pouvoir d'achat qui est en baisse, etc. On a besoin de cultiver nos propres légumes pour faire des économies. Et ça concerne effectivement toutes les générations. Et on voit sur les réseaux sociaux apparaître de jeunes jardiniers très branchés, très beaux, très dynamiques et qui vont nous faire des potagers comme ça incroyables. Donc non, maintenant, puis avec aussi l'éco-responsabilité et la biodiversité, tout ça, ça concerne la jeune génération et donc tout le monde aujourd'hui fait son petit potager, quel que soit son âge.
Oui, parce que vous parliez de maîtrise tout à l'heure du budget en faisant son propre potager, encore une fois, qu'il soit tout petit ou qu'il soit très grand. Mais on maîtrise aussi la chaîne de production, on sait ce qu'on met dedans et donc on retrouve un peu le contrôle, on pense à notre santé, à l'environnement.
Effectivement, ça aussi, ça fait partie des priorités, avoir son propre potager. On ne va pas mettre des produits de phytosynthèse ou autres qui sont nocifs. On va faire attention. Surtout qu'aujourd'hui, on a des tutos très pratiques qui nous expliquent comment utiliser des produits naturels. Donc ça, c'est important. Ça fait partie aussi des priorités. S'occuper de sa santé, faire attention à ce qu'on mange. Et c'est vrai que quand c'est son propre potager, on sait ce qu'on met dedans.
On peut écouter cette émission pour apprendre à bien faire son potager, mais on peut aussi poursuivre avec, vous le disiez, des tutos en ligne gratuits. Il y a des choses très bien faites, non?
Oui, par exemple, exemple sur mon compte Insta, j'en profite, je fais la petite pub. Mais c'est vrai qu'il y a plein de tutos pratiques aujourd'hui qu'on peut retrouver. En une minute, vous apprenez à faire votre potager, vous avez les bons conseils, les bonnes utilisations. Et croyez-moi, tout le monde fait très attention à ce qu'on dit.
Certains fruits et légumes sont très chers, les faire pousser à la maison, alors là c'est encore plus intéressant. Est-ce que vous avez quelques exemples?
Alors, le produit qui est tendance, c'est le gingembre.
Okay.
Alors là, toutes les personnes adorent prendre du gingembre, c'est bon pour la santé, ça dynamise, etc. Et ça coûte extrêmement cher. Alors là aussi, vous pouvez le faire pousser vous-même, hein, vous le faites germer. Quand il y a une petite pousse comme ça, eh bien, vous le laissez, en fait, vous l'abandonnez, votre gingembre, vous le laissez dans un coin. Ensuite, ça va faire des pousses, vous le mettez en terre de façon horizontale. Alors non seulement ça vous fait une très belle plante chez vous pour cet hiver, et au printemps, vous tirez sur les racines et vous aurez plein de gingembre, c'est multiplié par 10.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est plutôt intéressant.
Donc, on part de petits morceaux de gingembre qu'on achète là.
Alors, il y en a un que vous consommez, puis l'autre, vous l'abandonnez, carrément. Okay. Ouais, ouais. Vous pouvez le mettre dans un sac en papier craft que vous récupérez sur le marché. Vous l'abandonnez comme ça pendant environ 3 semaines, 1 mois. Il va faire ses premières racines. Quand il commence à faire ses racines, alors là, vous le mettez en terre. Attention, de façon horizontale.
Ouais, on a bien noté, ouais.
C'est très important. Et puis, vous l'arrosez beaucoup parce qu'il aime l'eau. Et puis, ça va vous faire une très belle plante. Et après, vous tirez. Ça fait comme... En fait, c'est un tubercule, c'est un peu comme la pomme de terre.
Ouais, ouais,
donc,
ouais,
vous aurez plein de gingembre.
Je vous donne rendez-vous donc quoi, en octobre, novembre, là, parce que je vais le faire. Hein.
C'est vrai.
C'est ça, ce sera
c'est ça.
À ce moment-là.
Et bah oui, même cet été. Hein.
Bon, on va vérifier ça, pas en temps réel, mais on vous tiendra au courant. Caroline Munoz, j'aimerais évoquer avec vous une question qui est quand même hyper importante. C'est est-ce qu'il faut beaucoup de place pour faire son potager ou pour faire pousser ses fruits et légumes? En d'autres termes, est-ce qu'il faut faire partie des chanceux qui ont un jardin?
Non, pas forcément. Avec 1 mètre carré. Vous pouvez faire pousser vos légumes, il y a pas de souci. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est un carré de potager surélevé. Alors je vous dis 1 mètre carré, non, j'exagère un peu. En fait, les dimensions, c'est 1m20 sur 1m50 avec une hauteur de 30 cm à peu près.
Donc, okay,
vous voyez, c'est
ça
pas
fait
très
un
grand.
Un petit 2 oui, 1m50 quoi.
Voilà,
ouais,
exactement, ouais. 2 mètres carrés, vous faites des carrés à l'intérieur de 30 cm, vous divisez en 30 cm et dans chaque petit carré, vous faites votre culture de salade. De tomates, de ciboulettes, de tout ce que vous voulez, même des oignons, de l'ail, c'est en ce moment qu'il faut le mettre en terre. Et vous avez comme ça votre petit potager, ça ne vous prend pas de place. Donc c'est possible sur un balcon, c'est possible partout.
Sur les balcons, il faut faire attention au poids, je le dis juste à celles et ceux qui nous écoutent. Vérifiez bien la capacité de résistance de votre balcon, on ne va pas faire tomber le balcon non plus, ce serait très ennuyeux pour un potager.
Non, il faut vous rapprocher de votre syndic en fait, pour demander l'autorisation et le poids qui est possible. Il faut faire très attention effectivement, et même quand on construit, on se dit « Ah bah tiens, je vais faire un toit terrasse avec un potager. Attention. »
Même si on a un studio, pas de jardin, pas de balcon, on peut faire pousser des petites choses quand même.
Mais oui, on peut faire pousser plein de choses.
Bon.
Si vous avez par exemple, je ne sais pas, juste une rambarde de balcon, vous prenez une jardinière et là vous plantez des fleurs, des petits trucs, des petites tomates cerises, on en parlait tout à l'heure. Alors ça, les gens en raffolent.
Justement, quels sont les fruits ou les légumes qui produisent le plus? C'est-à-dire, voilà, on est un peu, j'allais dire feignant, c'est pas le mot, mais on a envie que ça donne beaucoup. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner pour aller tout de suite à l'essentiel?
Ah bah, il y a les radis.
Ah
les
oui.
Radis, ça plaît. Ça plaît. En 18 jours, hein, vous avez vos petits radis. C'est pas compliqué. Hein, on les met en terre à 1 cm de profondeur. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils adorent parce que ça pousse facilement et ça, c'est très productif. Les tomates sont productives aussi. Les pommes de terre, vous pouvez en faire pousser dans votre jardinière. Vous récupérez les germes des pommes de terre. Vous les mettez en terre et ça va comme ça produire d'autres pommes de terre.
Ça, c'est bien quand on est feignant. C'est très bien.
Ah bah, vous m'avez demandé pour les feignants.
Non,
je vous réponds.
Excellent. Il y a des fruits ou légumes stars en ce moment qu'on peut faire pousser. Vous avez parlé du gingembre. Vous avez d'autres exemples comme ça un peu emblématiques des tendances du moment?
Tout le monde aime bien avoir sa petite salade. Là, vous avez la salade de printemps, la salade d'été, la salade d'hiver. Donc, si vous aimez la salade, vous en avez pour toute l'année. Les tomates, ça revient régulièrement. Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de choses. Hein.
Moi, j'ai essayé les artichauts, par exemple. Et alors, j'ai trouvé ça génial parce que ça fait sa vie tout seul finalement. Ça pousse, on recoupe un peu et ça repousse l'année d'après.
Oui, on appelle ça des légumes perpétuels.
Ouais.
En fait, ce sont des légumes qui reviennent chaque année sans qu'on ait rien à faire. Donc pour les paresseux, c'est parfait. Donc ça, c'est pareil. Vous avez le chou perpétuel, vous avez la rhubarbe qui fait partie des perpétuels. C'est-à-dire que vraiment, ça pousse. Vous le récoltez, vous taillez à ras. Et vous laissez. Et l'année prochaine, vous regarderez votre jardin, vous dites, mais qu'est-ce qui pousse là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Mais c'est mon petit chou perpétuel. Et il revient chaque année vous dire bonjour.
C'est une activité, faire pousser des fruits et légumes qu'on peut faire avec ses enfants, ses petits-enfants. Vous donniez l'exemple tout à l'heure des radis, mais c'est à la fois ludique, éducatif. Et puis à la fin, on fait encore des économies, parce que je le rappelle, là, l'objectif de faire pousser tout ça nous-mêmes, c'est qu'on va diviser quoi par 5, 10 parfois le prix.
Oui, facilement. Ouais. Hein. Et puis, il y a cette satisfaction. Et puis le fait aussi de jardiner, ça fait faire du sport. Et c'est très bon pour le moral aussi.
Si on a une grosse récolte, parfois on est un peu débordé. Hein. Ça aussi, ça m'est arrivé, notamment sur la pomme de terre. Dis donc, parfois, on se retrouve, on a plein de pommes de terre dans son jardin. Mm-hmm. On peut vendre son surplus. Comment ça se passe ?
Alors, on peut le vendre à condition que ce soit occasionnel. Okay. Si ça devient une activité professionnelle, dans ces cas-là, il faut le déclarer. Par exemple, si vous avez, une brocante, un marché avec des voisins, vous pouvez très bien vendre votre surplus. Rien ne vous en empêche. Vous avez tout à fait l'autorisation.
Et ça, c'est un super bon moyen pour se faire un petit revenu d'appoint.
Oui, arrondir ses fins de mois.
Voilà, il y a d'ailleurs même des applications, des sites internet qui vous aident à faire ça. Bonjour Laurence Baudelet.
Oui, bonjour.
Vous êtes cofondatrice du Réseau National des Jardins Partagés. Bienvenue sur votre radio locale ici. C'est quoi un jardin partagé, Laurence ?
Alors, un jardin partagé, c'est un jardin qui est conçu collectivement, qui est géré collectivement, parfois aussi aménagé collectivement, c'est-à-dire par toutes les personnes qui ont participé au projet. Parfois, c'est aménagé par la ville ou parfois aussi par des organismes HLM.
Et il y a un vrai état d'esprit derrière, hein, j'allais dire une philosophie, mais c'est pas trop de dire qu'il y a une philosophie là derrière.
Oui, c'est vrai. Ces jardins, ils sont basés sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de partage entre générations. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble, partager des savoir-faire aussi. Donc, c'est ça l'état d'esprit de ces jardins. Mmh.
Est-ce que vous constatez avec la crise du pouvoir d'achat, qui malheureusement, je ne sais pas si elle s'arrêtera un jour, un attrait renforcé pour ce type de jardin partagé, parce qu'il y a aussi des familles qui se disent « bah oui, j'ai pas de jardin, je vais aller dans un jardin partagé pour faire pousser mes fruits et légumes » et comme le dit Caroline depuis le début de l'émission, faire des économies.
Oui, tout à fait. Et ça concerne aussi les jardins familiaux, qui sont des cousins des jardins partagés. Il y a vraiment une demande très forte là, des ménages en France, surtout depuis le Covid. On a quand même vu une augmentation très forte de la précarité alimentaire et beaucoup de villes effectivement sont confrontées à cette demande de parcelles de jardinage. Donc on voit se multiplier les projets. Je pense que c'est une bonne chose pour répondre à cette demande.
Dans les jardins partagés, il y a ceux qui sont gérés par les villes ou en tout cas des collectivités. Parfois, ce sont des associations. Il y a aussi des bailleurs privés, hein, c'est ça. Il y a plusieurs types de jardins partagés finalement.
Alors, il y a en général, en fait, les jardins partagés, comme d'ailleurs les jardins familiaux, sont gérés par des associations.
Okay.
Plus rarement par des collectifs informels, on va dire, c'est-à-dire non déclarés en association. Et effectivement, la plupart du temps, ces jardins sont installés sur des terrains municipaux qui appartiennent à des villes ou sur des terrains d'organismes HLM avec qui il y a une convention qui est passée pour la mise à disposition du terrain.
Et Laurence Baudelet, dernière question. Comment on trouve un jardin partagé près de chez soi, là, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en appart et qui se disent « Bon, Caroline nous a expliqué comment faire des petites choses dans l'appart, mais on aimerait bien plus d'espace.
» Oui, donc en fait, vous avez le site du réseau des jardins partagés qui est jardin au pluriel-partage au pluriel.org. Et dans l'onglet « Qui contacter » sur la gauche, vous trouvez donc des correspondants par région.
Ok.
Avec des sites internet et en général il y a un annuaire aussi sur ces sites internet.
Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention Laurence Baudelet, vous êtes cofondatrice du Réseau National des Jardins Partagés, donc ce site jardin-partagé.org pour participer à l'émission par ici les économies @radiofrance.com. Caroline, vous connaissiez les jardins partagés, c'est chouette. Hein.
Ah oui, non, c'est très chouette et puis c'est vraiment des moments de partage où on voit tout le monde jardiner, récolter, c'est vraiment très chouette.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
En version magazine, le samedi, le thème aujourd'hui, faire pousser nos fruits et légumes avec ou sans jardin. Caroline Munoz est avec nous. Vous êtes spécialiste jardin, créatrice de contenu et vous nous conseillez pendant toute l'émission pour réussir à faire pousser nos fruits et légumes. Et on va le faire aussi avec Chantal Perdigo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Chantal.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Mais bienvenue, merci à vous. Vous êtes fondatrice du site Savez-vous planter chez nous. C'est quoi Savez-vous planter chez nous ?
Alors, Savez-vous planter chez nous, c'est un site de co-jardinage, c'est-à-dire que c'est un site qui met en relation des personnes qui ont un jardin mais qui, pour diverses raisons, ne le cultivent pas nécessairement. avec des personnes qui, elles, n'ont pas de jardin et aimeraient cultiver un potager. L'idée est très simple, les personnes se rencontrent, jardinent ensemble et partagent les récoltes.
Quand j'ai eu Caroline au téléphone pour préparer l'émission, je lui ai dit que j'allais vous inviter. Elle m'a dit, mais c'est génial cette idée, Caroline, vous ne connaissiez pas ?
Non, je ne connaissais pas du tout et je trouve que c'est une très belle initiative pour le coup.
On est d'accord. Et il y a plus de 6000 jardins disponibles sur votre site, c'est ça ?
Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a près de 6000 jardins proposés partout en France, aussi bien en ville qu'à la campagne. Et il y a quasiment autant de jardiniers en recherche. Et c'est vrai que les jardins prêtés sont très variés. Ça peut aller des parcelles de 10 mètres carrés jusqu'à plus de 500 mètres carrés, des jardins qui sont en friche ou ce sont déjà des potagers déjà cultivés. Il y a des vergers, il y a vraiment de tout.
Donc, si j'ai bien compris, il y a d'un côté une personne qui a un jardin, mais qui, soit pour des raisons de santé, de temps, de motivation, fait pas son potager. Et de l'autre, des gens qui n'ont pas de jardin et qui sont motivés pour faire le potager. Donc, ils vont venir sur la parcelle en question et à la fin, ils partagent la récolte. On est d'accord là-dessus ?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Bon, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui peuvent avoir une forme de réticence à faire venir des inconnus chez eux pour faire pousser des fruits et légumes ?
Alors déjà, le conseil que je peux donner, c'est lorsqu'on dépose son annonce, c'est de bien préciser déjà ses attentes, quel type de culture on souhaite, la fréquence de venue au jardin que l'on accepte, les méthodes de jardinage, etc. Puis ensuite, le site permet d'échanger directement via une messagerie interne.
Ah, ça c'est bien.
Donc ça permet de faire connaissance, de voir aussi quels sont les souhaits de la personne qui veut venir jardiner chez vous, voir si on a les mêmes envies, les mêmes intentions, et ensuite se rencontrer en vrai, physiquement, faire une visite du jardin, et puis voir si le feeling est bien là.
Voir si ça match.
voir si ça match, exactement. Après, sur le site, on a établi une liste de points à définir avant de débuter un partage de jardin. Donc, ça peut aider les duos propriétaires-jardiniers à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, on a même mis à disposition des modèles de contrat pour les personnes qui voudraient formaliser l'échange. C'est très peu utilisé.
Okay.
Souvent, ça va être un accord oral et ça se passe très bien. Il y a des personnes qui co-jardinent depuis des années. Donc,
Et votre service, il existe depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qu'il faut payer en tant qu'utilisateur pour s'en servir ?
Alors, c'est entièrement gratuit. Le site existe depuis effectivement 2011, donc ça fait maintenant près de 15 ans d'ailleurs. Et c'est entièrement gratuit. C'est pour vraiment faciliter les rencontres et permettre que de plus en plus de personnes puissent à nouveau se mettre à jardiner et à profiter d'un potager.
Et du coup, j'imagine, Chantal, vous êtes vous-même une passionnée de jardin. J'ai vu des photos de vous dans des jardins et des potagers. Hein.
Oui, alors moi, pour le coup, j'ai une parcelle et je n'avais pas le temps de la cultiver. Et je la prête, donc j'applique moi-même le principe du site. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir retrouver le goût de certains légumes, même le goût des tomates, le goût de... Voilà, je pense qu'on perd un peu le goût et la saveur de certains fruits et légumes. Et surtout, quand on a son potager, on peut aussi cultiver des variétés que l'on ne trouve pas en magasin, des variétés plus rares. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Et puis, il y a cette approche que nous, on essaie de mettre en avant, cette approche vraiment respectueuse de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'être dans le jardin, au contact de la nature. Et c'est une superbe occasion pour effectivement, comme vous le disiez, créer du lien entre les personnes qui à la base ne se connaissaient pas et qui se mettent à jardiner ensemble.
Et grâce à vous, Chantal, donc de belles rencontres, du service aussi et tout ça gratuitement. Merci beaucoup Chantal Perdigo, fondatrice du site Planter chez nous avec ce site internet, donc planterchezneux.com. Caroline Munoz, vous êtes spécialiste jardin et créatrice de contenu. Avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz, donc c'est le vrai-faux, hein, pour qu'on puisse finir avec les idées claires sur ce thème du potager. Vous pouvez dire vrai-faux, puis vous pouvez justifier, bien sûr, on a un peu le temps quand
merci.
Même. Alors, faire un potager coûte forcément cher au départ, vrai ou faux ?
Faux.
Moi, c'est... Non mais là, c'est avec conviction. Hein. On est sûr que la réponse, elle est claire. Certains légumes peuvent être récoltés plusieurs fois avec un seul plant. C'est vrai ou faux ?
C'est vrai, ça, c'est les légumes perpétuels. Ils reviennent chaque année. Les tomates ont plusieurs floraisons. Les fraises aussi. Il y a certains fraisiers qui ont plusieurs floraisons. Donc oui, on peut avoir des fraises, par exemple, pendant près de 6 mois.
Pas mal. Alors, je reviens juste sur l'artichaut, parce qu'à 2 euros l'artichaut, parfois... Non, mais l'artichaut, il revient aussi tout seul, c'est super, et j'ai trouvé ça très facile.
Il est beau, il fait une belle fleur.
Vous avez absolument raison, c'est vrai. Cultiver ses légumes en appartement permet aussi de faire des économies, vrai ou faux ?
Vrai, parce qu'on peut... du moment qu'on cultive soi-même, on fait des économies, donc quel que soit l'endroit.
Absolument. Partager un jardin ou cultiver chez quelqu'un d'autre peut réduire fortement les coûts. C'est vrai ou c'est faux ?
Bah oui, on se partage les outils, on se partage le temps de travail, on partage les légumes. Mais oui, forcément, dès qu'on est plusieurs, la communauté, le partage, ça fait des économies et ça fait du lien.
Caroline, les potagers demandent forcément beaucoup de temps, d'entretien. Il faut quand même avoir un emploi du temps qui laisse de l'espace pour s'en occuper. C'est vrai ou c'est faux ?
Faux.
Là aussi, il y avait de la conviction. Une dernière question. Il faut arroser tous les jours pour avoir un potager productif. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça?
Non, pas forcément. En fait, le potager, c'est aussi l'art du contemplatif. On observe, on regarde si les feuilles sont jaunes, si la terre est sèche, on arrose. Mais s'il n'y a pas besoin, non. C'est pas forcément d'arroser. Il ne faut pas arroser à outrance non plus, sinon on pourrit les racines.
Merci en tout cas pour vos éclairages, Caroline Munoz. Je le rappelle, hein, vous êtes spécialiste jardin, créatrice de contenu. On vous retrouve donc sur Instagram où vous êtes très active. J'ai refait votre petite pub. J'espère en tout cas pour vous qui nous avez écouté que c'est un peu plus clair sur ce sujet, faire des économies avec un potager. Pour écouter l'émission et la partager, c'est sur ici.fr. La semaine prochaine, on va faire nos courses ensemble